Bien, bonjour à tous. Bienvenue cet après-midi où on va analyser la question de l'efficacité du point de vue du droit. Vous allez le voir, mais c'est ce qui justifie que j'ai prévu cette leçon, enfin ce séminaire-ci assez haut dans le programme. Vous allez voir que je crois que la question de l'efficacité va se trouver étrangement bien structurée suite à ce détour par le droit. On avait dû faire un peu de détour par la Chine déjà pour se structurer. Vous allez voir que le droit aussi nous permettra de structurer les choses. D'abord parce qu'en général, les juristes sont des gens assez structurés. Alors qu'on peut considérer que l'efficacité, peut-être restée longtemps une question marginale dans la théorie du droit et dans la philosophie du droit, ne fût-ce que parce que le droit semblait ne pouvoir osciller qu'entre un questionnement sur la validité ou sur la justice, un point de vue positiviste, un point de vue naturaliste, et qu'on imaginait mal la théorie juridique dépasser cette dichotomie-là. Malgré cela, on a pu voir émerger au XXe siècle une école qui faisait la question de l'efficacité un de ses principes directeurs, et donc dispose là d'une véritable une école de l'efficacité du point de vue du questionnement juridique, à savoir l'analyse économique du droit ou l'école économique. Et enfin, peut-être parce que le champ juridique et même la pratique juridique est peut-être un champ qui est particulièrement concerné actuellement par la question de l'efficacité, étant donné certaines, on l'appelait d'une manière générale, certaines réformes professionnelles, certaines réformes qu'on tente de provoquer sur ce secteur-là, de manière à appliquer au secteur de la justice ce qu'on appelle le public management, avec les dangers que cela suscite de toute façon, de certaines fois. Alors qu'est-ce que ça veut dire une application au secteur de la justice du public management? Ça veut dire, d'une manière générale, pour considérer l'État et ses services comme étant des pourvoyeurs de services, c'est-à-dire aussi que la justice devrait être considérée en ce qu'elle, non seulement ce qu'elle répond à des objectifs, mais aussi en ce qu'elle satisfait des usagers. Et ce sont des réformes qui ont lieu très concrètement, avec des conséquences multiples du point de vue du droit, qu'on va s'en parcourir lors de ces deux exposés de cet après-midi. Des conséquences qui peuvent aller jusqu'à porter sur le type de conception qu'on a de ce qu'est une loi. Est-ce qu'une loi, est-ce que c'est durable? Est-ce qu'elle doit être pensée en ce qu'elle est momentanée, en ce qu'elle doit être réévaluée en fonction de ses effets, etc. Alors un autre, et je suppose qu'il en sera question aussi par la suite, par exemple, un autre grand déplacement qu'a pu produire cette approche plus managériale, disons, de la justice, c'est le fait de déplacer le centre, justement, de la justice de la souveraineté, en ce que le souverain était la source unilatérale de la loi, en ce que le souverain était le porteur de l'intérêt général, de l'intérêt public, etc., vers donc déplacement de ce centre qui était le souverain vers un autre centre que seraient plutôt les destinataires, non pas le destinataire, mais les différents destinataires justement de la justice, ces consommateurs. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, pour dire les choses au point de vue du droit pénal, parce que le droit pénal rencontre des enjeux assez criants, ça veut dire par exemple que du point de vue du droit pénal, il ne va plus s'agir, je caricature un peu les choses, il ne va plus s'agir de penser la sanction comme une juste punition, mais plutôt comme un moyen de protection de la société. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça implique dès lors le développement de pratiques probabilistes, qu'on appelle actuariennes, qui avaient été faites à l'union de manière à voir justement quelles sont les pratiques les plus efficaces dans ce champ. Alors, je terminerai en signalant deux traits qui me tiennent moi particulièrement à cœur, évidemment, du développement de ce type de management à propos du secteur de la justice, c'est qu'on peut se rendre compte effectivement que cela repose sans cesse et que cela induit sans cesse le développement d'une quantification des pratiques très forte. Hein. Ça, je crois que ça va être un fil conducteur qu'on va pouvoir trouver peut-être dans tous les. Lors de chaque séminaire, mais ici, il va s'agir effectivement de développer des indicateurs qui nous permettent de mesurer les choses. Dans les universités, on quantifie les choses en termes de nombre de chercheurs postdoctoraux, nombre de publications, publication de niveau A, publication de niveau B, publication de niveau C. Et on peut aussi produire ce genre de quantification-là dans le domaine de la justice, s'il s'agisse de penser la quantité de dossiers, je ne sais pas, le nombre de mètres carrés de cellules, etc. Mais il y a toujours ce travail de quantification qui est au cœur évidemment de mes recherches. Et alors l'autre point que je voulais souligner, mais pas du tout, vraiment en le mettant simplement sur la table, et pas du tout en faisant en donnant la moindre explication, c'est le fait qu'on va pouvoir sans doute on assiste dans ces réformes du monde de la justice, clairement à la mise, on peut se rendre compte que deux phénomènes vont toujours de pair, à savoir le phénomène de la standardisation des pratiques d'une part et le souci de l'efficacité. Et ça, de nouveau, je pense que c'est un trait, c'est ce double mouvement, recherche de l'efficacité et standardisation des pratiques. C'est aussi sans doute un des traits saillants qu'on va pouvoir observer dans les différents domaines, mais qui ne sont pas tellement visibles au niveau des pratiques de la justice.
Merci beaucoup. Dans cet exposé, je n'ai pas prévu de parler des réformes de la justice sur lesquelles j'ai travaillé par ailleurs, mais ce n'était pas le sujet dont j'avais prévu de parler, mais bon, peut-être qu'on pourra faire des ponts dans la discussion. Dans cet exposé, je voulais partager avec vous un questionnement qui est né pour moi dans un domaine que j'ai étudié, un domaine du droit qui s'appelle le droit de la concurrence. Et j'ai pensé à ce thème lorsque j'ai su le sujet général de votre cycle de séminaire, parce qu'en droit de la concurrence, on dit souvent, et même très souvent, que l'efficacité, ou l'efficacité économique, ou encore l'efficience, je vais revenir sur ces termes un peu plus tard, serait le but des règles de droit de la concurrence. C'est une affirmation vraiment très fréquente. On la trouve généralement dans les premières pages des manuels de droit de la concurrence. Et pourtant, ce que je voudrais essayer de vous montrer, c'est que cette affirmation n'est pas seulement fausse, ce qui serait un problème en soi, elle est dépourvue de sens, ce qui est un peu plus grave. Et les raisons qui permettent de porter ce jugement ne sont pas, à vrai dire, propres au droit de la concurrence. Elles sont propres plutôt à la notion d'efficience. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pensé que ce sujet pourrait vous intéresser. Alors, en un sens, je pourrais me contenter de vous présenter la critique de la notion d'efficience en ne vous parlant pas du tout du droit de la concurrence. Si je fais ce détour par... Ce chemin qui se trouve avoir été le mien pour arriver à cette réflexion sur l'efficience, c'est parce que en droit, précisément avec le mouvement d'analyse économique du droit que vous avez mentionné, dans les pays de common law, dans les pays de droit civil au contraire, cette façon d'aborder le droit à travers le prisme de l'efficience, ce regard d'économiste sur le droit qui prend le droit comme objet et le soumet à un questionnement économique qui consiste à se demander est-ce que cette règle, est-ce que cette institution est efficiente, ce questionnement-là est relativement mal accepté par les juristes. La question elle-même ne leur semble pas toujours légitime. Ce qui est particulier en droit de la concurrence et qui justifie que je vous ennuie un tout petit peu avec cette matière particulière, c'est que dans ce domaine particulier du droit, cette question de légitimité se pose beaucoup moins. Il y a une sorte de présomption de légitimité du discours économique parce que l'objet du droit est économique et donc il y a une sorte de confusion entre ce que le droit cherche à régir et le discours sur le droit, une confusion, une porosité qui fait que dans ce domaine du droit, il y a moins d'opposition au discours de l'efficacité. Et donc, comme c'est un domaine où l'affirmation selon laquelle le but des règles serait l'efficacité est prise au sérieux, et comme je vous le disais, elle est même largement consensuelle, c'est un domaine un peu privilégié en droit pour aborder ce thème de l'efficacité. Alors, ce que je voudrais faire, la structure de mon exposé, sera en trois temps. Un premier temps, c'est simplement poser quelques préalables, et j'en aurai trois. Juste vous dire quelques mots très très brefs sur le droit de la concurrence pour que le contexte de mon argumentation ne reste pas obscur. Un deuxième point sur la façon dont on aborde les finalités d'une règle de droit, comment est-ce qu'on les envisage, et je vais distinguer plusieurs manières de les envisager. Et le troisième point préalable sera une précision terminologique sur efficacité, efficience et l'emploi de ces différents thèmes. Ensuite, le deuxième temps de mon exposé sera tout simplement de vous présenter la thèse selon laquelle l'efficacité serait le but des règles de concurrence. Donc, c'est une thèse d'économiste et je vais essayer de vous présenter leur argumentation. Et puis, mon troisième temps sera de critiquer cette thèse en essayant d'expliquer en quoi l'efficacité ne peut pas être une finalité. Alors, juste vous dire à titre de premier préalable, quelques mots très très rapides sur le droit de la concurrence, parce que j'ai pensé que peut-être ce n'est pas quelque chose qui vous est familier, tout simplement. Alors, c'est un ensemble de règles de droit qui s'appliquent aux entreprises d'une part et aux États d'autre part, aux États au sens large, collectivités publiques, et qui interdisent certains comportements qui sont de nature, qui sont pensés comme étant de nature à fausser la concurrence. Fausser la concurrence, c'est une expression qu'on retrouve souvent. Alors, quels comportements sont interdits? Je ne vais pas du tout être longue sur ce point, c'est juste pour donner un tout petit peu de chair au propos. Les comportements qui sont interdits, c'est les ententes. Donc, quand deux entreprises se mettent d'accord pour, par exemple, fixer des prix entre elles. Donc, imaginez deux opérateurs de télécom mobile qui se rencontrent tous les trimestres discrètement dans une salle d'attente d'aéroport pour se mettre d'accord sur leurs tarifs. Et ça va avoir pour effet que vous allez payer plus cher vos factures de téléphone. Et ça, c'est interdit. C'est l'archétype de l'entente anticoncurrentielle. On appelle aussi ça un cartel. Deuxième type de comportement qui est interdit aux entreprises, à certaines entreprises seulement, à vrai dire, les entreprises puissantes, c'est l'interdiction des abus de position dominante. En gros, ça veut dire que une entreprise puissante, dans un sens que je ne prends pas le temps de définir ici, ne va pas pouvoir prendre appui sur sa puissance économique pour accroître encore cette puissance. Là aussi, au détriment de ses concurrents qui alors seraient exclus du marché et au détriment aussi des consommateurs. Un exemple dont vous avez peut-être entendu parler il y a quelques mois dans la presse, c'est quand par exemple la Commission européenne a imposé une amende de 1 milliard d'euros à Intel, qui est un fabricant de microprocesseurs qui se trouve dans nos ordinateurs, parce que Intel avait par un système assez ingénieux et très peu transparent, en fait, offert des rabais à des fabricants d'ordinateurs pour qu'ils mettent dans leurs ordinateurs seulement des microprocesseurs Intel et surtout pas ceux du concurrent qui s'appelait AMD. Puis en plus, Intel avait payé des distributeurs pour qu'ils ne distribuent pas dans leurs magasins des ordinateurs qui avaient les puces du concurrent à l'intérieur. Et donc, ça avait pour effet d'exclure effectivement, dans une certaine mesure, le concurrent du marché. Il y a d'autres règles qui interdisent. Ça, c'est les règles pour les règles qui s'appliquent aux entreprises. Il y a donc entente, interdiction des abus de position dominante. Il y a aussi un contrôle des concentrations pour, en quelque sorte, c'est de la prévention. On ne se contente pas de sanctionner les abus de position dominante, on essaie d'éviter que se constituent des positions trop dominantes. Et puis, il y a aussi des règles qui s'appliquent aux États qui ne permettent pas, par exemple, de donner des subventions dans un grand nombre de cas. Il y a des règles de marché public, etc. Voilà. Je ne m'attarde pas plus longtemps, c'était juste pour, s'il y avait peut-être parmi vous des gens qui ne savaient pas du tout ce qu'était le droit de la concurrence, situer un tout petit peu le contexte de l'argumentation. Alors, Si on a des règles qui protègent la concurrence, comme celle que je viens d'évoquer, on peut penser à deux justifications de ces règles. Soit c'est parce qu'on considère que la concurrence est un bien, et donc on veut la protéger, soit c'est parce qu'on considère que la concurrence est un moyen qui permet d'arriver à autre chose, et que cette autre chose est un bien, et que la concurrence est un bon moyen d'y arriver, et donc on veut la protéger. Les deux types de réflexion sont conduites en droit de la concurrence, et les deux types d'argumentation ont leurs partisans. Mais celle à laquelle je vais m'attacher dans la suite de cet exposé, l'argumentation économique en termes d'efficience, se situe clairement dans la deuxième catégorie, où la concurrence est un moyen qui est considéré comme un bon moyen d'arriver à une fin qu'on appelle efficience, maximisation des richesses. Je vais revenir à ces différents termes dans un instant. Avant de le faire, je voudrais poser un deuxième préalable qui est... Comment aborde-t-on la finalité d'une règle de droit ? Finalement, on discute de la question, est-ce que l'efficience peut être la finalité des règles de concurrence ? Mais comment connaît-on la fin poursuivie par une règle de droit ? Alors, il faut d'abord préciser que ce questionnement sur les fins en droit n'est pas seulement un questionnement de philosophe. C'est un questionnement qui a des enjeux pratiques très très directs pour les juristes. Parce que assez souvent, les règles sont un peu vagues et se posent des questions qui ne sont pas explicitement résolues dans la règle de droit. Il faut alors chercher la solution par interprétation. C'est ce que font les cours à peu près tout le temps. Et une des méthodes d'interprétation qui est particulièrement employée en droit européen, et le droit de la concurrence est très européanisé, c'est une méthode d'interprétation dite téléologique, c'est-à-dire qu'on interprète la règle à la lumière des buts qu'on lui prête. Et donc, on va arriver à interpréter la règle différemment selon le but qu'elle poursuit ou qu'on pense qu'elle poursuit. Sans développer là non plus, mais pour vous donner juste un bout d'exemple en droit de la concurrence, si on considère que le but des règles de concurrence, c'est l'efficience, alors on va par exemple considérer qu'une entreprise que l'on accuse d'avoir restreint la concurrence va pouvoir valablement se défendre en disant que son comportement était en réalité efficient. Si le but final, c'est l'efficience, qu'il peut paraître qu'elle a restreint la concurrence, mais qu'au fond, elle parvient à démontrer que non, elle a défendu l'efficience, alors on doit l'excuser d'avoir restreint la concurrence. C'est ce qu'on appelle en droit de la concurrence l'efficiency defense, la défense, l'excuse tirée de l'efficience. Donc il y a vraiment des enjeux très concrets derrière cette question. Certains comportements vont être interdits ou pas, selon la réponse qu'on va apporter au questionnement sur les finalités. Alors la question suivante, c'est comment détermine-t-on les finalités ? Alors tout dépend si on est juriste ou économiste. Si on est juriste et qu'on se pose la question des finalités d'une règle, on va généralement, toujours même, partir de la règle. On va éventuellement aller voir les travaux préparatoires, ce qui s'est dit à propos de la règle au moment où elle a été débattue. Mais, et il existe là aussi plusieurs méthodes d'interprétation, mais en tout cas, on va rechercher les finalités d'une règle particulière en étudiant cette règle-là avec des méthodes d'analyse textuelle proprement juridique. La méthode économique pour aborder les finalités d'une règle de droit est assez différente. Ce n'est pas une méthode qui se concentre sur une règle particulière, c'est plutôt une méthode qui consiste à avoir des hypothèses très générales et à dire que, sauf précision contraire, c'est ces buts-là qui sont les buts des règles de droit. Mais comme souvent la règle ne précise pas son but, sauf précision contraire, ouvre un champ assez vaste. Parmi les économistes qui abordent les règles à partir d'hypothèses assez générales sur les finalités, on peut distinguer schématiquement deux écoles. L'école optimiste, qui fait l'hypothèse que le législateur est bénévolent et donc que, sauf précision contraire, le but des règles de droit, c'est la maximisation des richesses. C'est en langue économiste, ça veut dire le souverain bien, le bien commun. Ils appellent ça la maximisation des richesses ou total welfare. Il y a l'école pessimiste qui part de l'hypothèse que le législateur était peut-être bénévolent, mais qu'entre-temps il a été corrompu et qu'il est capturé par des intérêts particuliers et qu'au fond, les règles reflètent les intérêts particuliers les plus puissants qui ont été les plus efficaces en lobbying auprès du législateur ou de l'auteur de la règle de façon générale. Encore une fois, malgré ces différences à la fois à l'intérieur des méthodes juridiques et à l'intérieur des méthodes économiques, il y a une différence plus grande encore entre les deux types de méthodes. C'est que la méthode juridique se concentre sur la règle, les méthodes économiques se concentrent sur, au fond, des postulats. Et c'est un conflit de méthodes qui est non résolu et qui explique la légitimité problématique de l'analyse économique du droit dans beaucoup de domaines du droit. Mais comme je vous le disais en commençant, en droit de la concurrence, malgré ce conflit de méthode, la thèse économiste sur les finalités apparaît crédible. Elle est même consensuelle, comme je vous le disais. Il est temps d'en venir à mon troisième point préalable, c'est-à-dire une précision terminologique. J'ai parlé d'efficacité dans le titre de mon exposé, d'efficience depuis tout à l'heure, d'efficacité économique de temps en temps. Il faut définir ces termes, sachant qu'il y a dans la pratique et dans les textes qui traitent de ce sujet un flottement terminologique constant. Alors, si l'on veut clarifier un peu la terminologie, on peut, je crois, dire que l'efficacité se définit comme la propriété de ce qui atteint son but, tandis que l'efficience peut se définir comme la propriété de ce qui atteint son but au moindre coût. Au fond, l'efficience, c'est le contraire du gaspillage, c'est parvenir à ses fins en utilisant les moyens qui sont les plus économes pour arriver à ce but. Par ailleurs, la notion d'efficacité économique qu'on rencontre beaucoup est souvent utilisée comme traduction de efficience. Moi, j'utilise efficience en français parce que je pense que c'est commode pour le distinguer de efficacité. Mais un usage plus conservateur de la langue conduit à dire que c'est un néologisme et qu'il ne faut pas utiliser en français le terme efficience, et alors on va plutôt dire efficacité économique. Mais en général, le terme efficacité économique est utilisé plus ou moins rigoureusement, mais dans le sens que je viens de définir pour efficience, c'est-à-dire la propriété de ce qui atteint son but au moindre coût. Ces préalables étant posés, je voudrais en venir à la thèse que je veux critiquer, la thèse selon laquelle l'efficience serait le but du droit des règles de droit de la concurrence. Alors, pour vous présenter cette thèse, je voudrais vous exposer tout d'abord un raisonnement qui reste implicite chez les économistes, mais qu'on peut, me semble-t-il, reconstituer, et puis ensuite vous exposer leur raisonnement explicite. Le raisonnement implicite est le suivant. C'est un syllogisme qui consiste à dire « La concurrence mène à l'efficience, or l'efficience est un bien, donc la concurrence doit être préservée. » Encore une fois, on ne trouve pas ça dans les écrits des économistes, mais il me semble que ce syllogisme est sous-jacent à leur thèse. Le raisonnement explicite, que l'on trouve en revanche très fréquemment exposé, c'est en réalité une justification de la majeure du syllogisme que je viens de vous présenter. Une justification de la proposition « la concurrence mène à l'efficience ». Alors, pardonnez-moi de faire un tout petit peu d'économie, mais ça ne sera pas très technique. Ici, le raisonnement est le suivant. On suppose que les entreprises sont rationnelles et qu'elles cherchent à maximiser leurs profits. Dans une situation de concurrence, des entreprises rationnelles vont donc être exposées à la concurrence les unes des autres, et il va résulter de cette confrontation concurrentielle une convergence des prix de marché, vers le coût. Et à la fin, une fois que le processus aura fini de bouger, on aura, c'est un résultat que les économistes établissent dans leur modèle, un prix qui sera égal au coût unitaire. Alors, la notion de coût ici englobe tous les coûts, y compris une juste rémunération du capital. Donc, ne faites pas de souci pour les entreprises quand le prix est égal au coût. Ça veut juste dire qu'il n'y a plus de surprofit, mais le coût inclut des profits normaux. Le processus en un mot est le suivant. Enfin, le résultat se justifie de la manière suivante. Si une entreprise pratique des prix qui sont supérieurs au coût, donc elle a des surprofits. Alors, des concurrents vont flairer l'opportunité et ils vont entrer sur le marché, proposer des prix inférieurs, et donc il y aura un alignement des prix sur les coûts. Si d'autre part, une entreprise a des coûts plus élevés que le prix de marché, alors elle sera mécaniquement incitée soit à améliorer sa productivité, soit à sortir du marché. Et donc, c'est ce qui explique qu'à la fin, il ne reste que les entreprises qui peuvent vendre en alignant leurs prix sur les coûts. De ce raisonnement que je présente de façon un peu stylisée, les économistes tirent la conclusion que la concurrence mène à l'efficience. Par quoi il faut entendre deux formes d'efficience qui sont distinguées clairement par les économistes. L'efficience allocative d'une part et l'efficience productive d'autre part. L'efficience allocative signifie que chaque ressource est allouée à son usage le plus productif. Parce que si une ressource pouvait permettre de produire plus de valeur, alors les entreprises qui peuvent produire plus de valeur avec cette ressource vont en offrir un prix supérieur, et donc ça va attirer la ressource vers son usage le plus productif. Donc, l'efficience allocative, ça veut dire que la répartition des ressources est considérée comme la plus productive possible. Et l'efficience productive, la notion ici concerne les choix des techniques de production des entreprises. Chaque entreprise, pour aligner ses prix sur ceux de la concurrence et sur les coûts unitaires, va être incitée à être plus productive, à faire l'usage le plus économe des ressources qui sont disponibles. Donc le modèle à partir duquel les économistes pensent la concurrence permet d'établir ce double résultat que la concurrence parfaite mène à l'efficience allocative et à l'efficience productive. Et ce n'est pas tout. Parce que les économistes montrent ensuite qu'une fois que ces deux formes d'efficience sont réalisées, alors l'économie se trouve dans une situation où la production est la production maximale possible compte tenu des ressources disponibles. C'est-à-dire qu'on fait globalement le meilleur usage possible des ressources, autrement dit, on atteint ce que les économistes appellent la maximisation des richesses. Et c'est un terme qui est très important dans la discussion sur les finalités. Et donc on a d'un côté la démonstration que la concurrence mène à l'efficience, ensuite la démonstration complémentaire que alors dans ce cas, on n'est pas seulement à l'efficience, il y a aussi maximisation des richesses. Et Cela fait que les deux propositions suivantes sont considérées par les économistes comme équivalentes. Première proposition, la concurrence mène à l'efficience. Seconde proposition, la concurrence mène à la maximisation des richesses. Les deux sont utilisés de façon interchangeable par les économistes. Et c'est ce qui explique, en un sens assez faible, que les économistes considèrent comme raisonnable d'assigner aux règles de concurrence le but d'atteindre indistinctement ces bonnes propriétés de la concurrence que sont l'efficience et la maximisation des richesses. C'est en quelque sorte le discours qu'il y a derrière, la thèse selon laquelle le but des règles de concurrence serait l'efficience et ou la maximisation des richesses, sachant que la distinction a tendance à se fondre dans le discours des économistes. Alors, c'est cette thèse que je voudrais maintenant critiquer. En fait, la thèse selon laquelle l'efficience est le but des règles de concurrence procède de trois éléments. Un raisonnement que je viens d'essayer de vous présenter, selon lequel la concurrence mène à l'efficience. Deuxièmement, un postulat selon lequel la maximisation des richesses est la fin recherchée, en général par les règles de droit et en particulier par les règles de concurrence. Et puis, un amalgame entre le raisonnement et le postulat. Et donc, ce que je voudrais faire, ça n'est pas critiquer le raisonnement, parce que cette critique-là a été faite, elle relève de l'économie, elle est un peu technique, et ça n'est pas ça dont je veux discuter. Ce que je voudrais vous présenter, c'est la critique du postulat, et essayer de démonter l'amalgame qui est fait. Alors, la critique du postulat a été faite de façon approfondie par Dworkin dans un texte qui est sans doute bien connu dans une faculté de philosophie. Le texte s'appelle « Is wealth a value ?» et il est publié dans un recueil d'articles qui s'appelle « A Matter of Principle » de 1985, qui est aussi publié en français sous le titre « Une question de principe » et le titre de l'article est, je crois, « La richesse est-elle une valeur ?» Alors, je ne vais pas reprendre le texte de Dworkin qui est très touffu et je crois qu'il nous faudrait au minimum tout l'après-midi pour faire ça. Je voudrais juste prendre en fait quelques arguments pour critiquer le postulat selon lequel la maximisation des richesses peut être une fin en général et de ces règles de concurrence en particulier. Comme je vous le disais, la richesse est maximisée lorsque chaque ressource disponible est allouée à son usage le plus valorisé. L'ennui, c'est que cette valorisation qui est nécessaire pour passer de la notion d'efficience allocative à la notion de maximisation des richesses, cette valorisation, elle se fait en argent. Et c'est un problème d'unité de mesure. On parlait en introduction du fait que dès qu'on parle d'efficience, on va chercher à mesurer quelque chose. Et là, on a un problème avec l'étalon, qui est un étalon monétaire. On va mesurer la valeur en fonction de ce que ça vaut sur le marché, c'est-à-dire ce que quelqu'un est prêt à payer pour avoir une ressource donnée et choisir ensuite son usage. Alors, un premier problème avec cet argument, c'est qu'évidemment, il s'applique difficilement à toute la sphère non monétisée. Et les domaines non marchands sont nécessairement importants dans une société, est problématique si l'on veut dire que le but en général de toutes les règles de droit, c'est la maximisation des richesses. Il y a forcément des règles qui ne vont pas avoir ce but, ne serait-ce que celles qui s'occupent du secteur non marchand. Un autre problème avec cette méthode de valorisation par la monnaie, c'est que un euro vaut un autre euro. Autrement dit, ce type de raisonnement met sur un pied d'égalité les valorisations, quel que soit l'agent qui est l'auteur de la valorisation. Si quelqu'un est prêt à payer 10 euros et quelqu'un d'autre est prêt à payer 11 euros, c'est le second qui doit avoir, qui a la valorisation la plus élevée, qui doit remporter la ressource, indépendamment du fait que 10 euros peut représenter une petite fortune pour quelqu'un qui est sous, et 11 euros peut représenter absolument rien du tout pour un agent beaucoup plus riche. Par ailleurs, des études empiriques, dans le texte de Dworkin, l'argument est fait de façon assez abstraite, mais il a depuis reçu un support empirique massif de la part d'études faites par des psychologues. On sait très bien que même pour un même agent, une seule personne, la valorisation d'une ressource va être différente selon qu'il est dans la situation d'acheter cette ressource et donc de devoir payer pour y avoir accès, ou à l'inverse, s'il est vendeur de cette ressource, il doit s'en séparer contre une somme d'argent. Donc l'hypothèse selon laquelle un euro vaut un euro est problématique pour ces différentes raisons. Et d'un point de vue de philosophie morale, cette mesure est encore problématique pour une autre raison, c'est qu'alors la solvabilité des agents devient la mesure du poids qui leur revient dans le choix collectif. Quelqu'un qui est peu solvable, même s'il désire très fort une ressource, il n'aura comme poids dans le choix d'allocation des ressources que ce qu'il peut offrir pour la ressource. Et donc, encore une fois, l'aune à laquelle on pèse les différents votes, entre guillemets, dans ce choix collectif sur les ressources, est l'aune de la solvabilité. Je n'ai sans doute pas besoin de souligner que il serait difficile de trouver une théorie de la justice qui s'accommode de ce principe. Donc, j'ai sauté assez vite sur l'argumentation, mais il me semble que ces arguments-là sont très forts, et je me contente de ceci pour l'instant pour dire que la maximisation des richesses, qui est la fin amalgamée à l'efficience allocative par les économistes et en tout cas présentée comme acceptable pour les règles de concurrence, cette fin-là, elle n'est pas acceptable en tant que fin, pour des raisons de principe. Voilà ce que je voulais vous dire pour la critique du postulat selon lequel la maximisation des richesses est une bonne fin. J'aimerais dire encore quelques mots sur le troisième élément de la critique, après la critique du raisonnement, je n'ai pas présenté la critique du postulat, j'en viens au démontage de l'amalgame entre le raisonnement et le postulat, c'est que, en fait, cet amalgame procède d'une confusion. On présente la maximisation des richesses comme une fin, alors qu'elle ne peut pas être une fin, parce que, au fond, c'est une propriété technique. L'efficience est une propriété technique. La définition technique, c'est que une décision X est efficiente si elle n'est dominée par aucune autre décision possible. On va dire que la décision X est dominée par une décision X' si, pour tout critère retenu, tout critère de bonne décision retenu, X est au moins équivalent à X', supérieur ou égal à X', et qu'il existe au moins un critère pour lequel X est strictement supérieur à X'. cette définition rigoureuse de l'efficience ne correspond pas à l'idée reçue qu'on a de la notion. Et cet argument a été fait avec beaucoup de force par Alexis Jacquemin dans un article assez ancien de 1977, dont je pourrais vous donner les références si vous le souhaitez. L'efficience est un rapport, est une propriété d'un rapport moyen-fin. C'est pour ça que ça ne peut pas être une fin. Et la référence à l'efficience, pour fréquente qu'elle puisse être dans certains domaines du droit comme le droit de la concurrence, la référence à l'efficience ne permettra jamais de faire l'économie du débat sur les fins. Une fois qu'on aura explicité les fins, on peut dire que une règle ou une institution est plus ou moins efficiente pour atteindre la fin donnée. Mais ça peut... C'est, encore une fois, si c'est une propriété d'un rapport instrumental, on peut se poser la question de l'efficience par rapport à n'importe quelle fin attribuée à une règle de droit, y compris une fin redistributive, une fin sociale. La question est, est-ce que ça marche bien? Est-ce que on parvient à cette fin de façon économique? Pour emprunter une formulation à Alexis Jacquemin que je citais il y a un instant, dire que l'efficience économique est une fin procède en réalité d'une confusion entre une norme technique, le rapport d'efficience, et une norme éthique, la maximisation des richesses, dont j'ai essayé de vous expliquer pourquoi elle me semble une fin inacceptable d'un point de vue éthique. En somme, l'énoncé que j'essaye de déconstruire devant vous mêle un jugement implicite sur les fins, selon lequel la maximisation des richesses est souhaitable, et un jugement explicite sur le moyen le plus efficient d'y parvenir, qui serait la concurrence. Donc, en conclusion, ce que je voulais vous dire dans cet exposé, c'est que même là où l'efficacité économique est considérée comme une fin crédible des règles de droit, l'efficience en réalité ne peut pas être une fin. L'efficience est une propriété d'un rapport instrumental, comme d'autres propriétés de rapports instrumentaux, comme par exemple la proportionnalité. L'efficience est à penser à l'instar de la proportionnalité, ce sont des notions qui rentrent dans la même catégorie. La référence à l'efficience ne permet jamais de faire l'économie d'un débat sur les fins, et au cas où vous vous posiez quand même la question, la finalité, concernant la finalité des règles de concurrence, il est par ailleurs inexact de dire qu'elle se confond avec la recherche de la plus grande richesse.